Bonjour à toutes et à tous. Pour cet épisode d'À vos trousses, on vous propose une interview avec Grégoire Souchet. Bonjour Grégoire.
Bonjour.
Alors tu n'es pas nouveau sur ces ondes. Tu as déjà passé à Radio Larzac, je crois, il y a un moment. Et tu es aujourd'hui journaliste pigiste pour des médias nationaux comme Libération et Reporter. Et tu es venu à Millau récemment pour animer des ateliers d'éducation aux médias au lycée Jean Vigo et au club radio de la MJC qui se passe ici à Radio Larzac. Tout ça, c'était dans le cadre d'un projet d'éducation aux médias soutenu par la DRAC Occitanie. Et aujourd'hui, donc, on va parler de tout ça. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier de journaliste donc indépendant pigiste ?
Oui, tout à fait. Je suis donc moi journaliste professionnel depuis une petite dizaine d'années. J'ai alterné entre la radio associative, hein, j'ai officié pendant 2 ans comme journaliste à Radio Saint-Taf, et puis la presse écrite et web. Et aujourd'hui, je suis pigiste, c'est-à-dire que je travaille pour plusieurs rédactions et je vends mes sujets, entre guillemets, même si je suis salarié. Et donc, je travaille, donc comme tu l'as dit, avec Libération. Je suis correspondant pour la zone Aveyron-Lozère. Je travaille également avec Reporter, Quotidien de l'écologie, et puis la presse agricole de Lozère depuis un peu plus d'un an et demi, où je travaille là avec faire des portraits d'agriculteurs et de la vie agricole dans le département. Et enfin, avec un peu de presse spécialisée aussi sur l'énergie. Et s'ajoute à ça maintenant que je donne plus des cours à Toulouse dans des écoles de journalisme sur journalisme environnemental. Donc finalement, ça fait pas mal d'activités.
Et oui, tout à fait, parce que c'est pas la première fois que tu animes des ateliers d'éducation aux médias. Donc j'étais curieuse de savoir quelle place elle occupe en fait l'éducation aux médias. Tu as dit t'es prof aussi, tu donnes des cours à l'université. Donc voilà, quelle est la place que ces ateliers prennent dans ton quotidien de journaliste ?
Alors, c'est vrai que c'est une vraie question pour beaucoup de journalistes pigistes, parce que la pige, c'est pas simple d'en vivre, hein, pour beaucoup. Et beaucoup de collègues se tournent vers l'éducation aux médias pour arriver à joindre les deux bouts. Et puis aussi parce que ça permet de confronter un peu ce qu'on fait au quotidien comme journaliste avec les retours et du public, et notamment des jeunes, à qui on parle pas forcément, hein, dans les médias de presse écrite, c'est pas les plus consultés par les plus jeunes, mais même au-delà, par la population. Et puis c'est une manière aussi de se rendre compte de comment les gens s'informent aujourd'hui, etc. Moi j'ai la chance que, pour l'instant, je garde ça comme une activité secondaire et ponctuel, comme là le projet qu'on a fait ici à Radio Larzac. Après, par exemple, je suis intervenu avec une ONG qui s'appelle Acted, et là je suis allé dans différentes écoles de journalisme pour animer des ateliers plus sur le sujet du journalisme environnemental et climatique, mais ça reste ponctuel. Ça n'empêche pas que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et c'est vrai que le temps qu'on passe à expliquer qu'est-ce qu'on fait, eh bien on ne fait pas directement du journalisme. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Pour l'instant, pour moi, c'est maximum 20%, on va dire, de mon temps et de mes revenus annuels. Donc ça reste une activité accessoire.
Et c'est important pour toi, c'est quelque chose que, voilà, comme tu dis, nourrit ta pratique aussi ?
Oui, je pense notamment aux cours là, que j'ai attaqué à l'automne, donc dans 2 écoles, à l'ISCPA et à Sciences Po Toulouse, là où j'ai fait ma formation de journaliste, justement. Ça permet de transmettre, en fait, déjà, de ce qu'on sait, ce qu'on a appris par la pratique du terrain. Moi, j'ai pas fait une école de journalisme reconnue par la profession nationale, etc. J'ai fait une petite école, hein, Sciences Po Toulouse, avec un master en journalisme. Mais c'est vraiment en travaillant sur le terrain, notamment dans le Tarn, avec toute l'histoire autour du barrage de Sivens, où je me suis formé vraiment à qu'est-ce que c'est, Coco, le métier, quoi, concrètement, comment on enquête sur la police, comment on enquête sur un projet comme ça qui mêle des élus, qui mêle des enjeux environnementaux, et qui brasse plein d'aspects de la société, comme aujourd'hui on peut avoir des dossiers comme Sainte-Soline, par exemple. Et j'ai appris énormément de choses, en fait, en travaillant comme ça. Et donc, c'est un vrai plaisir de le transmettre. En fait, ça fait réviser aussi, quand on explique la charte d'éthique des journalistes et les bases du métier, c'est bien de le dire, mais du coup, ça nous rappelle que qu'on est tenu de le faire, et parfois, bah, ah oui, tiens, sur tel article, c'est vrai que j'étais un peu léger là-dessus, peut-être j'ai pris pas assez de temps, peut-être j'ai pas assez vérifié mes infos. Donc voilà, c'est, ça nous permet aussi de nous remettre dans l'apprentissage et de re-questionner la pratique en permanence. Parce que le journalisme, c'est pas une science infuse, c'est une pratique.
Et justement, quand on parle d'éducation aux médias, on pense souvent à la sensibilisation à la désinformation, aux fake news. Toi, tu as beaucoup parlé de transmission. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour toi qui sont importantes quand tu fais des ateliers d'éducation aux médias que tu essayes de transmettre justement ?
Oui, je pense que plein de gens savent très bien faire ça. Les fake news, comment distinguer le vrai du faux, etc. Il y a, vraiment, c'est un domaine où beaucoup de gens se sont spécialisés là-dessus. Je ne suis pas extrêmement bon pour transmettre ça. Par contre, moi, là où j'ai une force, on va dire, c'est que ce qui me semble important de comprendre, c'est que déjà, les médias en tant que tels, ça n'existe pas. C'est une pluralité de médias, une pluralité de structures. Et Radio Larzac, le groupe Vivendi, sont des médias. Ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et les journalistes même ne sont pas une caste unique. Ce sont des travailleurs et des travailleuses de l'information. Et j'essaie toujours d'expliquer, même si ce n'est pas toujours évident à comprendre, que la production d'informations, c'est un travail qui peut être rémunéré. Certains le font gratuitement, mais moi, j'entends bien me faire payer pour ça. Et du coup, qui dit conditions de production, dit aussi structure, dit relations de pouvoir dans les rédactions. Et les pigistes, qui sont par exemple majoritairement des femmes, sont dans des situations souvent moins bien payées que des journalistes permanents. On a eu un exemple là tout récemment avec Le Monde Diplomatique qui fait l'objet d'une enquête de Libération et d'Arrêt sur Image où on apprend que le salaire d'un permanent c'est autour de 5000 euros à l'année plus les intéressements et que les pigistes parfois le temps que ça prend de travailler sur une enquête pour le diplo vivent à peine au SMIC. Donc il y a une différence de traitement entre journalistes qui explique aussi énormément de pourquoi ce qu'on voit dans les médias n'est pas toujours conforme à ce qu'on voudrait. Quand on n'a pas le temps, quand on n'est pas assez bien rémunéré, quand on n'est pas assez bien considéré, sans parler des problèmes de harcèlement, d'emprise qu'il peut y avoir aussi dans certains médias, je pense dans le secteur du podcast par exemple, où ça a pu se produire, eh bien, c'est très difficile de faire bien son travail. Alors, chacun fait de son mieux, généralement, mais quand dans une rédaction web, on demande 15 articles par jour à quelqu'un, c'est pas possible d'aller faire une enquête. Des fois, c'est même pas possible de passer un coup de fil. Et moi, j'ai la chance d'avoir choisi la pige, c'est-à-dire que c'est vraiment une volonté de rester libre du choix de mes sujets, de mes rédactions et de qu'est-ce que je fais et quand. Alors certes, ça va avec un peu de flexibilité, hein, comme on dit. Maintenant, j'en vis bien, j'en vis correctement, mais du coup, ça me donne aussi une responsabilité parce que je suis pigiste en zone rurale.
Oui, et d'ailleurs, tu touches un très gros thème. Je pense qu'on pourrait consacrer une émission entière à la précarisation des journalistes parce que ça pose aussi la question de est-ce qu'on est prêt à payer pour recevoir de l'information ? Mais ce qui m'intéressait aussi, et c'est un peu l'objet de tes ateliers que tu as menés ces dernières semaines, c'est que tu fais de l'actualité locale finalement un sujet pour la presse nationale. Et on reproche des fois aux médias nationaux effectivement d'être très centrés sur l'actualité des grandes villes, même quand on voit des photos par exemple en ce moment des réformes des retraites, des manifs, c'est toujours des photos de Paris ou de Lyon. Et donc toi, tu es d'accord avec ces critiques ?
C'est justement ce dont on parlait encore là ce matin au lycée Jean Vigo, donc dans l'un des trois ateliers. J'ai essayé d'expliquer justement, moi, comment je fais depuis l'Aveyron pour faire amener des sujets locaux dans la presse nationale.
Et on peut écouter du coup un premier extrait.
Si je veux qu'on parle d'un sujet ici, il faut que je le fasse monter à la capitale. C'est-à-dire que je convainque mes rédactions de me prendre le sujet. Et à votre avis, par exemple, quand j'ai commencé à travailler pour Libération, c'était il y a 3 ans. J'avais fait un premier article sur un sujet dans le Tarn, lié à l'eau, et puis j'ai proposé mon premier gros sujet, ma double page, en Aveyron. À votre avis, qu'est-ce que m'a pris comme sujet Libération pour parler de l'Aveyron, dans le sud Aveyron ?
Les spécialités locales.
Et il y a quoi comme spécialité locale ?
La Lego.
Alors, la Lego, c'est plutôt le nord. Qu'est-ce qu'on a ici dans le sud?
Le Côte d'Or.
Hein?
Non, mais...
Le Roquefort. Eh bien, j'y suis allé en proposant un sujet sur le faux Roquefort réveille José Bouvé. Et ça a pris de suite. Ça n'empêche pas que dans mon article, j'ai pas centré sur José Bouvé. Et j'ai plutôt raconté la situation de la filière agricole, le problème de la surproduction, qu'est-ce qu'on fait du lait qui n'est pas certifié AOP. Bref, je dis d'autres choses. Mais pour accrocher ma rédaction, quand je fais mon pitch, comme on dit, c'est-à-dire j'envoie 2-3 lignes pour appâter la rédaction, ben, je joue un peu sur ces codes-là.
Donc ça, c'était ton premier sujet donc, que t'as proposé à Libération. Et depuis, tu proposes toujours des sujets locaux.
En fait, pour Libération, c'est assez particulier parce que on n'est pas très nombreux et nombreuses à vivre en zone rurale pour Libération. Il faut bien comprendre que les médias nationaux sont beaucoup avec d'effectifs centraux à Paris, et que même les rédactions hors Paris, les personnes vivent en ville. Par exemple, Le Monde, ils sont 2 personnes qui vivent à Toulouse et qui couvrent 8 départements de Midi-Pyrénées. Libération, j'ai eu cette chance d'arriver dans un territoire qui, on va dire, était un petit peu à l'extérieur du territoire couvert par la correspondante, les correspondants qui sont à Montpellier, qui couvrent de Perpignan à Nîmes, et qui couvrent aussi l'Aubrac, parce que c'est leur territoire historique, voilà, elles connaissent ce territoire. Mais l'Aveyron, Sud-Aveyron, Rodez et puis la Lozère n'étaient pas tout à fait couverts. Et donc je suis arrivé un petit peu à me glisser au milieu de tout ça. C'est pas évident parce que les correspondants, ils vivent que des commandes de Libération ou du Monde ou de la Croix, etc. Donc quand tu arrives et que tu proposes un sujet, tu leur prends un peu de travail. Donc il y a une vraie difficulté là-dessus. Moi, j'ai moins besoin de Libération en permanence parce que déjà, ils vont pas faire l'Aveyron tous les 4 matins. Et puis, je vis avec aussi d'autres médias, donc je suis pas totalement dépendant. Ce qui n'empêche pas que, effectivement, Libération, par exemple, me contacte de temps en temps pour me faire une illustre, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire illustrer un sujet national avec du rural. Et pendant le confinement, je me suis retrouvé à devoir faire l'illustre du confinement à 19h au mois de novembre à Millau. On m'a demandé ça, mais j'ai dit mais ça n'a pas de sens, parce qu'à 19h en novembre, sous la pluie à Millau, il n'y a personne qui pleuve, qui vente, ou qu'il y ait du confinement ou pas, ou le couvre-feu ou non. Et donc, j'ai dû expliquer à ma rédaction que ça n'était pas pertinent pour ce coup-ci. Mais du coup, on voit que des fois, il faut vraiment prendre le temps de déconstruire la vision qu'on a de l'Aveyron. Et à l'inverse, par contre, moi, ma rédaction, elle est en attente. Elle me demande parfois des sujets et elle est intéressée d'aller me demander. Par exemple, on a fait récemment un sujet sur le RSA et l'expérimentation du RSA sous condition, comme on dit. Et l'Aveyron est un des territoires concernés. Et on est 3 correspondants, donc dans les Vosges, à Lyon et moi ici en Aveyron, à les raconter dans les différentes situations comment ça se passe. Donc c'est vrai que ça donne une responsabilité un peu différente, parce que ce que j'apporte là dans un média national, je dirais pas que c'est unique, mais c'est un petit peu plus singulier. Et je fais pas non plus le même travail que la presse locale, qui... faut pas la dévaloriser. Souvent, les conditions de travail des personnes qui sont notamment dans les locales, c'est très compliqué. Hein. Le turnover est immense dans la PQR, presse quotidienne régionale, donc Midi Libre, La Dépêche et d'autres. Mais du coup, moi, je lui amène, on va dire, une dimension de portée nationale. Comment on fait pour ce qui se passe en Aveyron est une valeur nationale? On peut aussi citer Mediapart, qui par exemple, la collègue qui est à Montpellier et qui couvre les questions sociales, Cécile Hautefeuille, est venue couvrir une manifestation en montrant comment l'Aveyron, territoire qui était plutôt macroniste à une époque, dont le maire de Rodez est macroniste, et puis plutôt à droite historiquement dans certains aspects, et ben comment ce territoire est devenu un endroit où les manifestations sont massives et très nombreuses contre les réformes des retraites. C'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir 20 000 personnes dans les rues de Rodez, c'est pas très courant. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses à raconter, et que le territoire où je vis peut être un beau support pour ça. Mais il faut arriver à convaincre.
Et donc tout ça a fait l'objet de tes ateliers que t'as mené au lycée Jean Vigo et au Club Radio. Comment les jeunes surtout ont réagi?
C'est assez variable. Je dirais que pour le Club Radio, c'était une vraie découverte, hein, puisqu'ils étaient assez jeunes, notamment des collégiens. Au lycée, ça a dépendu aussi des classes. Il y en a une qui a été vraiment très intéressée, notamment parce qu'il y avait des aspirants ou aspirantes journalistes dedans. Donc, il y avait un bel entrain là-dessus. Et puis, moi, je leur ai fait faire un petit exercice. C'est justement se mettre un peu à ma place, parce que je pense que c'est la meilleure pédagogie, hein, de faire soi-même. Et donc, de regarder dans les journaux locaux quel sujet serait intéressant à traiter dans une presse nationale.
Du coup, le sujet, c'est le métier de maire. Et notre angle original, c'est être maire, c'est plus compliqué que ce que l'on pense. Et on va le présenter au journal de TF1 au 13h.
C'est un sujet sur les menaces sur les hôpitaux de Villefranche-de-Rouergue et de Casseville.
Ouais.
L'hypothèse de fermer une ligne d'urgence la nuit est probable. Et donc, ce serait pour le média Libération.
Et du coup, ce serait quoi l'angle?
Vu qu'à moins de... Non, je sais pas.
si, vas-y, fais-toi confiance.
Il y a moins de 1000 accouchements et du coup, c'est pas assez, du coup, ils veulent fermer.
Et ça, c'est un vrai sujet et un sujet qui intéresse les rédactions nationales en ce moment, c'est la fermeture des hôpitaux de proximité en zone rurale. Et ça, c'est typiquement un sujet où on va venir me chercher.
Nous, du coup, comme sujet, on a choisi le cyberharcèlement.
Ouais.
En titre, on va mettre une augmentation inquiétante du cyberharcèlement dans les écoles.
Ouais.
On va commencer par parler de l'intervention au collège Masbou de Figeac. Et après, on va parler des dangers, des conséquences du cyberharcèlement.
Et pour quel média?
TF1.
Et bien c'est plutôt un bon choix parce que effectivement c'est des sujets comme on dit concernants. C'est-à-dire que les spectateurs de TF1 se sentent très concernés par ces sujets. La difficulté c'est que c'est à Figeac. Donc Figeac, il faut envoyer une équipe. L'équipe de TF1 la plus proche, c'est Toulouse. Ah, donc comment tu fais pour aller à Figeac? Bon, il va falloir convaincre que ce truc-là est peut-être plus intéressant que la même intervention qui va avoir lieu deux jours après dans un collège à Toulouse.
Donc c'était un extrait des exercices que tu as fait faire aux jeunes au lycée Jean Vigo et en tout cas ils semblent plutôt force de proposition sur beaucoup de sujets.
Oui, je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer que les jeunes ont un problème avec l'information. Bien sûr qu'il faut leur donner des éléments et leur apprendre à décoder les médias, mais je veux dire, tout le monde, les personnes qui propagent des fake news, ça peut être aussi bien des jeunes qui sont sur leurs réseaux sociaux en un seul mot, comme on dit, que des tontons, des tatas ou des oncles et tantes qui sont sur Facebook la journée et qui suivent des théories complotistes. Je pense qu'il faut arrêter de considérer les jeunes comme étant des mal informés par défaut et puis et arrêter de dévaloriser aussi leurs sources d'information. Oui, les jeunes ne lisent pas Libération tous les matins. Peu de gens le font en vérité et peu de gens sont abonnés à la presse quotidienne nationale. Et bon, c'est un problème au sens que ces journaux, du coup, n'ont pas les ressources pour vivre. Mais est-ce que ce que fait Hugo Décrypte, qui est vidéaste sur YouTube, sur TikTok et Instagram, il n'est pas journaliste, mais il fait un travail de journaliste. Ce que fait Jean Massier avec sa chaîne et son émission Backseat sur Twitch, qui fait de l'éducation populaire au fonctionnement de l'Assemblée nationale, et bien d'autres, en fait, ça renouvelle aussi la pratique du métier. Et puis, les jeunes journalistes qui arrivent aujourd'hui dans le monde des médias, je peux penser à ceux de Blast, du média, le média.tv, et puis d'autres, des photographes et reporters indépendants, ils renouvellent aussi la pratique du métier, où pendant des années, on avait un rapport à l'objectivité absolue, et on voulait surtout pas se mouiller. elles et eux, parce que ce sont aussi beaucoup des femmes, eh bien elles prennent la place, elles prennent la parole à la première personne et elles disent le changement climatique est une urgence, on en fait une priorité et on va se bouger là-dessus. Bah, ça change et ça fait du bien. Et je pense qu'il ne faut pas opposer ces formes-là. Ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut des conditions de travail, il faut des gens qui puissent faire leur métier correctement. Et voilà, moi, c'est mon petit côté syndicaliste. Je suis dans des associations de défense des droits des journalistes aussi. Mais on ne peut pas évacuer la question de comment est produite l'information et comment vivent les gens qui la produisent. Je pense que c'est une source essentielle de compréhension des problèmes médiatiques. Et pour arrêter de taper sur le stagiaire ou la personne en CDD, qu'on envoie faire un truc avec une consigne qui est dégueulasse, et qui du coup se retrouve face à des gens, leur pose une question qui n'a aucun sens, dans les manifs ou je ne sais où. Voilà, toujours se rappeler qu'on est des travailleurs de l'information et qu'on fait partie d'entreprises comme les uns les autres. Et on sait très bien que l'entreprise, c'est pas forcément un milieu démocratique, sauf en association ou en SCOP, où ça peut se passer différemment. Mais voilà, c'est des éléments importants, et je pense que le mettre en tête, en plus des sujets sur la désinformation, distinguer le vrai du faux, voilà, c'est important pour les jeunes, et les moins jeunes en général.
Oui, parce que je pense que en faisant ce travail d'éducation-là, qui, comme tu dis, est intergénérationnel, ça pourrait aider tout le monde à rétablir sa confiance envers les médias.
Et surtout, quand on discute avec les gens et qu'on leur explique notre travail, j'ai eu des agriculteurs lausériens qui étaient très, 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 très suspicieux à l'égard de ma personne, parce que je voulais faire leur portrait, raconter leur vie. Et ils étaient très, très mal. Bon, ben, j'ai pris des heures, en fait, hein, au total, pour discuter avec eux, pour discuter des citations, parce que normalement, ben, on fait pas relire. Mais donc là, je leur ai lu par téléphone certains extraits, et ils ont accepté, au final, qu'on publie l'article. Parce que, une fois que t'expliques comment tu travailles, pourquoi tu fais tes choix, et que t'as des justifications pour le faire, bon, ben, les gens, ils voient bien que tu fais ton métier. Effectivement, quand tu vas à la boulangerie, tu ne demandes pas tous les matins à ton boulanger d'expliquer ou ta boulangère comment il a fait son pain. Tu lui fais confiance pour son pain. Ben nous, journalistes, on va dire qu'on a fait du... On a trop de monde qui a fait du pain trop cuit ou du pain pas digeste pendant un certain temps. Et donc, ben, il faut que ceux qui, comme moi, essayons de faire de l'information locale en circuit court et on va dire avec des bons produits, et ben, il faut qu'on arrive à convaincre. Voilà. Et qu'on arrête de... Aussi, comme parfois peut-être certains milieux médiatiques l'ont cru, que si les gens croient pas en les médias, c'est que c'est des débiles, ou en tout cas à les considérer un peu comme des imbéciles. Ben non, si les gens croient pas en les médias, ben à nous de faire le travail de les convaincre que notre boulot, il vaut quelque chose. Et que si on écrit et qu'on se plante, on se corrige. Et que s'ils sont pas d'accord avec ce qu'on écrit, c'est une chose. Mais s'ils ne comprennent pas ce qu'on écrit, il faut au moins qu'on l'explique. Voilà.
Oui, et du coup, tu as de la confiance aussi envers ces nouveaux médias qui se créent, comme tu disais.
J'ai de la confiance en la capacité des gens qui sont en train de devenir journalistes ou qui sont journalistes aujourd'hui à produire une belle information. J'ai pas du tout confiance dans les modèles économiques des nouveaux médias. On peut penser à ce qui s'est passé dans le monde du podcast, où il y a eu des révélations à la chaîne sur... des problèmes de harcèlement, des problèmes de mauvaise rémunération, j'y reviens, hein, mais à un moment donné, il faut qu'on puisse vivre. Je veux dire, moi, je gagne plus que le SMIC, enfin, depuis plusieurs années maintenant, mais le nombre de collègues qui sont extrêmement précaires et très très loin des salaires contre certains journalistes permanents dans les télés ou dans certaines radios, il est colossal. Et donc, on ne peut pas dissocier le fait de créer un média militant, indépendant, etc., de donner des bonnes conditions aux personnes qui travaillent dedans. Faut arrêter de penser que, oui, mais c'est pour la cause, donc on peut faire des sacrifices, et donc le sacrifice, c'est du temps, du salaire, de la considération. Non. Non, tu crées un nouveau média pour inaugurer le monde d'après, entre guillemets, qui soit féministe, environnemental, etc. Et on voit que, ben, par exemple, une newsletter qui s'est créée, qui s'appelle Climax, qui est une sorte de canard enchaîné du climat, qui a un petit public sur Internet, et ben, la première chose qu'ils ont fait, quand même, c'est de nous poser la question, mais comment on doit vous payer ? Et c'est bête, mais il y en a tellement qui, par défaut, sont hors la loi en voulant nous faire faire des factures alors qu'on est des salariés, que rien que le fait qu'ils se posent la question, c'est un bon signe. Et ça donne envie aussi de travailler avec eux derrière, quoi. Voilà. Donc, je suis optimiste sur l'information. Et puis, je pense que là, avec, par exemple, le mouvement sur les retraites, on a vu que même dans des grands médias, comme BFM TV, comme des chaînes d'info en continu, ben on a vu qu'on pouvait parler de la vie des éboueurs, des ouvriers, ouvrières, des personnes qui sont cassées par le travail. Elles avaient effectivement un peu disparu du paysage. Bon, ben là, le sujet arrivant sur le devant de la scène, eh ben, on revoit aussi des personnes qui en avaient disparu. Donc, c'est quand même encourageant.
Et ces questions de rémunération et de conditions de travail, je suppose, ont été posées pendant ces ateliers, par exemple, par les jeunes qui aspirent à faire une école de journalisme ? Ou quelles étaient leurs questions en
général ? Ils m'ont plus demandé c'était quoi le cursus par où j'étais passé. Je pense que c'est un peu tôt, peut-être, au lycée. Moi, je me souviens, la question que je me posais au lycée, c'est « Mais est-ce que je suis légitime pour devenir journaliste ?» Et venant d'un territoire rural, on continue d'avoir ces préjugés-là. Moi, quand j'ai été pris à Sciences Po Toulouse, c'était sur concours. Je tombais des nues, je m'y attendais pas du tout. Parce que je pensais pas rentrer dans un truc comme ça. Alors, est-ce que c'est que j'étais très bon ? Est-ce que j'étais pris sur des critères géographiques ? J'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est qu'il existe, et peut-être s'il y a des personnes intéressées par le métier, qu'elles le sachent, il existe un dispositif qui s'appelle la chance au concours avant, et qui permet, qui est une sorte de prépa, mais une prépa non payante, contrairement à d'autres, et qui permet à des personnes avec des profils différents, des personnes racisées, des femmes, des personnes issues de zones rurales, et de monde ouvrier, pour changer un petit peu le profil des journalistes, parce que c'est vrai que sinon on a un petit peu des fils de profs et de cadres de protection intellectuelle, de profession intellectuelle, pardon, protégés justement, et on va dire qu'on renouvelle pas trop le paysage. Et donc la chance, elle permet d'aider des personnes qui, au départ, se sentent peut-être pas légitimes, mais qui ont envie de devenir journalistes. Et c'est des journalistes professionnels qui bénévolement, les accompagnent, font du tutorat, du mentorat. Et du coup, moi, quand je les retrouve après dans les écoles de journalisme, ils ont une pêche incroyable, parce qu'ils ont une niaque pour réussir, parce qu'ils ils en ont bavé, ils et elles en ont bavé. Et derrière, ça fait des journalistes avec d'autres profils, qui racontent d'autres histoires, qui ont un lien avec d'autres territoires, et qui, effectivement, quand ils vont parler de ruralité, ils vont éviter de tomber dans le stéréotype qui est soit les pauvres miséreux des campagnes, ou ils nous embêtent, ces bouseux, qui sont un petit peu les deux grosses catégories de stéréotypes qu'on a dans les médias sur la ruralité. Non, les ruralités sont plurielles, complexes, elles sont queer comme elles sont ouvrières, et c'est très bien, je trouve, que des journalistes issus de ces milieux et qui ont aussi ces vécus-là puissent raconter ça dans les médias.
Merci beaucoup, Grégoire.
Merci beaucoup.
Et donc, je le rappelle, tu es journaliste pigiste à Naveyron pour La Presse Nationale. Et vous pouvez, si vous voulez, chers auditeurs et auditrices, retrouver ces articles sur Libération et Reporter, notamment. On mettra aussi le lien pour La Chance dont tu parlais. Ça pourrait intéresser nos jeunes auditeurs et auditrices, ou même les moins jeunes. Et merci aussi à la DRAC Occitanie pour avoir soutenu ce projet d'éducation aux médias au lycée Jean Vigo et au club radio de la MJC à Radio Larzac.